Bernard Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour cet entretien réalisé par téléphone. Nous voici après plusieurs semaines de confinement et vous, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle et ses conséquences ?
Bien, les incidences, tout le monde les voit, tout le monde les constate. Au plan économique, d'abord, pour faire des courses, c'est très compliqué. Et des fois, dans le magasin, il n'y a plus grand-chose. Cette crise sanitaire est un bouleversement économique au niveau mondial. Et pour en parler, on pourrait reprendre les éléments de base, c'est-à-dire le circuit économique.
On vous écoute et faites-nous donc ce décryptage économique de la situation.
Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde d'un point de vue d'économiste comme moi ce qui se passe dans notre monde, on peut décomposer la vie comme étant d'abord une production. On produit des biens, des services, on cultive ceci et cela, on les vend ou on les mange, et ça génère des revenus. Et avec ces revenus, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dépense. On dépense pour les engrais, pour la production agricole, pour la machine, pour les loisirs, pour aller au cinéma, pour les études, et même pour mettre la grand-mère dans une maison de retraite éventuellement. Donc le circuit, c'est ça. Produire, ça génère des revenus, et ce revenu, on les dépense. Et quand vous coupez dans le circuit, eh bien, il y a des conséquences dramatiques. Je vous donne un exemple. L'effet sur les restaurants est massif, violent. En France, par exemple, on avait 150 000 restaurants. Ça représente plus de 550 000 salariés, employés, à temps partiel peut-être certains, etc. Mais tout ça fermé, eh bien, le restaurateur, il n'a plus de revenus. Pour lui, il a peut-être plus de profits, de bénéfices sur son affaire. Et les salariés qui se retrouvent en chômage partiel, ils vont toucher, évidemment, parce qu'il y a un effort colossal de notre société, ils vont dépenser juste de l'alimentaire. Vous voyez, les coupures. Donc derrière, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on est dans le sud, on est proche des Pyrénées, bien, le tourisme, ça va être catastrophique. Ils vont pas venir, ils ont pas d'argent. Voilà des conséquences d'un circuit. Vous coupez tout, la production, revenus et les dépenses. Puisque pour les raisons sanitaires, on coupe ce qui fait l'activité. Deuxième exemple, je voulais changer de voiture, et ben je ne changerai pas de voiture parce que demain, je ne sais pas comment ça va se produire, etc. Troisième exemple qui est quand même colossal, qui a surpris tout le monde, c'est l'effondrement du prix du pétrole. Est-ce qu'on se rend compte, et les pays producteurs de pétrole, les sociétés d'exploitation, tout d'un coup, leur demande s'est effondrée. Pourquoi ? Parce que ben, l'industrie ne tourne plus, peu de gens évidemment consomment en voiture, etc. Donc tout d'un coup, ce prix s'effondre. Bien sûr, on a vu que ces producteurs, ils ont stocké. Mais le stock, il faut le matériel. Et puis ensuite, ça a un coût. Et les puits de pétrole, si vous coupez l'extraction, eh bien, il faudra après reprendre tout le système d'extraction. Il y aura un coût ultérieur. Ensuite, au niveau économique, toujours, ce que ça réforme, ce que ça modifie d'une manière très forte, c'est le problème de la répartition de la production dans le monde. On voit des questions qui vont surgir à tout le monde. On a manqué de masques, mais bon, on avait peut-être pris une mauvaise décision, etc., c'est ce qui ressort. Mais le problème, pourquoi on ne pouvait pas en fabriquer tout de suite ? Le problème, c'est la délocalisation d'une partie des industries. C'est la répartition dans le monde de plein de productions. Ben, les masques, il fallait les commander en Chine parce que tout d'un coup, on apprend que les grandes entreprises qui fabriquent ces produits sont en Chine. Regardez pour les médicaments. Qui savait en janvier que l'essentiel des produits de base pour fabriquer les médicaments était fabriqué en Chine, en Inde ? Qui le savait ? Personne, moi-même, je peux dire honnêtement que je ne le savais pas. Et donc, pourquoi c'était fabriqué là-bas ? Eh bien, toujours pareil. Les entreprises, eh bien, elles répartissent leur production un peu partout, et surtout, elles vont chercher où ça coûte moins cher. Dans certains cas, ça se comprend, eh, parce que c'est une façon aussi d'être présent sur ce marché local. Je fabrique maintenant chez vous, donc je vends aussi chez vous. Et puis ensuite, c'est la main-d'œuvre et meilleur marché. Là aussi, il ne faut pas l'oublier. Au combien il ne faut pas l'oublier ? Et puis, dernier point, et ça, il faut savoir que c'est une donnée de base du monde entier. On vient mettre l'industrie là où on a la matière première. la délocalisation, c'est aussi d'aller chercher à tel endroit parce qu'on trouve les produits de base produits localement. Donc, il y a une logique à cela. Mais le résultat final, c'est qu'on découvre que des industriels ont quitté la France, ne fabriquent plus en France, mais ils vendent en France. Et dans ce circuit-là, on va se reposer la question de la mondialisation. Elle va devenir très, très forte. Il faudra bien, et ça paraîtra logique, qu'une partie de l'industrie française fabrique en France, pour vendre en France. Parce que cette répartition mondiale qui s'est faite avec la progressivité, c'est mieux comme ça, c'est plus productif, etc., fait par exemple que les pièces détachées, pour fabriquer un avion, une auto, un motoculteur, il y a des pièces fabriquées en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, et demain en Afrique. Cet ensemble de systèmes, il est remis en cause massivement. Et c'est en cela que l'économie va s'en trouver bouleversée, et pour l'instant, elle est secouée violemment.
Et pour vous, que faut-il attendre de l'après-crise alors ?
Alors, l'après-crise me paraît un peu lointaine en raison de ce que l'on sait du point de vue sanitaire. Mais l'après-crise, honnêtement, on y est. C'est-à-dire, on y est au moins d'un point de vue intellectuel. C'est de dire, par exemple, ce qu'on dit relocalisation, que des entreprises reviennent ici travailler. On y est dans l'après-crise. On y est, quelque part. La deuxième chose aussi, qui est la grosse réflexion, c'est l'Europe. Là, avec nos pays qui sont de la communauté européenne, quel niveau de solidarité on a eu ensemble ? Eh bien, ça va être effectivement l'effacement de la dette. On a des pays, si je prends nos collègues italiens, nos collègues et nos voisins espagnols, des pays qui ont des niveaux d'endettement par rapport à l'Europe, qui est, il va falloir effacer, c'est la seule solution pour qu'on reparte. La BCE joue un rôle très important dans le redémarrage de l'économie, parce que la BCE balaye les règles. Et d'ailleurs, elle a annoncé très simplement, Madame Lagarde, il y aura 500 milliards d'euros pour les États, et il faut aller dans ce sens-là. Et donc, il y a un point sur lequel je voudrais dire un petit mot simplement, c'est qu'on met au point des vaccins. Là, il y a grosses études qui travaillent, de nouveaux médicaments, il y a une recherche énorme faite. Est-ce que vous savez que derrière, le vrai enjeu, ça va être les brevets ? Là, on est dans l'économie. C'est-à-dire ces laboratoires, ces grandes entreprises, que je ne nommerai personne, mais ces grandes entreprises, etc., qui travaillent sur ces nouveaux produits, etc., elles vont s'empresser de tout breveter, et ça nous coûtera extrêmement cher pour quelques actionnaires américains, chinois, voire européens. Voilà la situation telle qu'elle est en termes d'économie. Pour peut-être faire une conclusion sur cette petite émission économique, je dirais que chacun pense à autrui, parce que si on ne se met pas d'accord, toute crise économique dans l'histoire du monde a débouché par la guerre. Et là, ce n'est plus l'économiste qui parle, c'est le citoyen. Je remercie tout le monde et souhaite à chacun que sa famille et lui-même se portent bien.
Bernard Ferrand, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et prenez soin de vous également.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.